Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Au revoir podcast, épisode 35. Jay et Zahir, des jumeaux et la très grande prématurité. Partie 2. Cédric, leur papa. La semaine dernière, vous avez pu découvrir l'histoire de Jay et Zahir, nés à 24 semaines d'aménorrhée en avril 2021 et pris en charge à l'unité de réanimation infantile et pédiatrique du CHU de Reims, l'URIP. Dans la première partie de cet épisode, mis en ligne il y a quelques jours, c'est leur maman, Morgane, qui était mon invitée. En plein mois d'août 2022, j'ai d'abord enregistré avec elle, avant de faire un second enregistrement, quelques heures plus tard, avec son compagnon de toujours, Cédric. Dans cette seconde partie, c'est lui qui va revenir sur l'histoire de ses deux fils, sur l'histoire de Jay et Zahir, sur son identité de papa de deux très grands prémas, sur son identité de papa, doublement endeuillé. Le baptême, les au revoir, le couple, les émotions, l'après, l'espoir, le mariage avec Morgane. C'est de tout ça dont on a parlé ensemble. Dans cet épisode, moi, Sophie, je vais complètement m'effacer derrière son témoignage. Je vous souhaite une belle écoute.
On est ensemble depuis 2005, le 16 janvier 2005. Donc ça fait un petit peu plus de 17 ans qu'on est ensemble. On a grandi ensemble, du coup on s'est connus ados. À l'âge de 15 ans, moi j'étais encore au collège à ce moment-là. Alors moi depuis tout petit, forcément des enfants je m'en voulais. Je voulais une équipe de basket. Donc au minimum 5 personnes. Donc après voilà, en grandissant, les critères sont complètement modifiés. Forcément quand on s'est connus à 15 ans, c'est pas du tout des sujets qui étaient d'actualité à ce moment-là. Et puis pareil, à 15 ans, on n'était pas dans l'optique de se dire dans 10 ans on sera encore ensemble. On a laissé le temps faire, et puis au final, 17 ans après, on est toujours ensemble. Donc après, oui, en vieillissant, j'ai toujours eu ce désir d'être papa. Je voulais pas d'enfant avant d'avoir une situation stable. Parce que voilà, je sais que des enfants, ça coûte cher, faut avoir une certaine stabilité, etc. Donc, on va dire, tant que j'étais pas encore en CDI, je voulais, dans un coin de ma tête, mais sans vraiment lancer de projet. Et donc après, j'ai enchaîné beaucoup de boulot, que ce soit du CDD, de l'intérim, etc., sans forcément décrocher de CDI tout de suite. Mon premier CDI, j'ai eu assez tard quand même. Il y a 5 ans à peu près, donc après oui, une fois que le CDI était signé, j'ai commencé à en parler à Morgane, que ça faisait partie forcément de mes projets de vie. Puis voilà, donc on s'est posé la question. Elle, c'était pas du tout dans ses priorités. Moi, j'avais envie de choses, on va dire, qui allaient changer réellement notre quotidien, en fait. avoir des enfants, fonder sa famille, pour moi c'était quelque chose de très important. Voilà, j'avais besoin d'une nouvelle chose dans notre vie pour avancer et vraiment avoir un gros changement, quoi. Donc après, oui, on a commencé à en parler. Elle, le fait que ce soit pas du tout dans ses projets de vie, puisque voilà, sa vie se passe très bien, elle voulait pas ramener entre guillemets des choses qui pouvaient peut-être chambouler tout ça, et que, enfin voilà, elle était pas prête à ce changement-là. Ça faisait donc une quinzaine d'années déjà qu'on était ensemble, donc on s'est posé la question, et puis enfin voilà, le fait qu'on s'aime, que moi je veux des enfants, pas elle, donc après oui, il y a eu un moment où, on va dire, où il y a eu un doute, et elle s'est posé la question de se dire, ça vaut pas le coup de passer à côté de ça et de se séparer parce que qu'on s'aime. Et après, je suis quelqu'un de très très patient quand même, donc je me suis dit, je préfère laisser entre guillemets le temps faire. Je veux pas lui mettre la pression. Le jour où elle sera prête, on lancera le projet, quand elle l'aura décidé. Et voilà, oui, non, je voulais pas du tout lui mettre la pression par rapport à ça. J'étais ici dans le canapé. Donc en fait, elle est venue. Alors comment c'était? Oh, je sais plus dans quel ordre. Elle va me buter. oui, comment ça s'est passé? Je me souviens. En fait, quand elle me l'a annoncé, pour moi, c'était entre guillemets irréel. On va dire, dans ma tête, tout s'est un petit peu mélangé. Donc, elle m'avait donné des bodys. Alors, je sais plus exactement ce qui avait été marqué, dessus. Oui, un petit peu, chamboulé, hein, perdu, entre guillemets, parce que je me suis dit, je vais devenir papa, on va fonder notre famille, notre propre famille. Voilà, tout se mélangeait, on va dire, dans ma tête. Après, forcément, on se fait, ça va assez vite, on commence tout de suite à s'imaginer des projets, alors que, ça faisait quelques semaines qu'elle était enceinte, mais tout de suite, on pense à l'appartement, comment réaménager, préparer les pièces, préparer l'arrivée du bébé. C'était un beau sentiment quand même. Pour moi, c'était important aussi d'être là toutes les échographies, dès qu'il y avait quelque chose chez le gynéco, je voulais être présent pour suivre tout du début jusqu'à la fin, être là, en fait, dès qu'il y avait une annonce ou quelque chose à savoir. Et en fait, oui, quand le gynéco lui a dit, vous êtes bien assis, il dit, il y en a deux. Du coup, moi, j'étais derrière elle me voyait pas. J'ai pas réussi à parler, j'ai eu un grand sourire jusqu'aux oreilles. Et là, je me suis dit, deux, ça va être double sport, c'est nos premiers enfants. On commence direct avec des jumeaux. Pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Après, c'est vrai qu'elle a toujours dit qu'elle sentait que pour elle, il y aurait des jumeaux, qu'elle aurait des jumeaux depuis ado, hein, elle m'a toujours dit ça. Le fait qu'il y ait des jumeaux dans sa famille, dans ma famille également, c'est vrai qu'on se dit ça va être tout en double. Après, il y a aussi un autre côté, c'est que on est des personnes, on n'aime pas faire comme les autres, on aime bien se différencier, et en fait le fait aussi de dire on a des jumeaux, ça rajoute un petit quelque chose entre guillemets sur notre personnalité, et de dire que on fait pas comme tout le monde, et du coup on a des jumeaux pour la première grossesse. Alors, moi, je suis de nature pas du tout stressé. je suis très calme, très posé, pas du tout stressé. Et le fait de savoir qu'il y en avait deux, ça m'a pas spécialement stressé, mais après, forcément, on se pose la question, on se dit, par contre, va falloir en gérer deux en même temps, deux bébés. Déjà, un, c'est pas forcément plus ce qu'il y a de plus reposant, donc deux en même temps, ça va être double travail. après c'est tout, on est deux, on les a voulus, c'est, on va dire, ce côté-là prend le dessus, et voilà, après on se dit, bah c'est, oui, c'est, de toute façon ce sera une évidence, et on fera tout pour que tout se passe bien, quoi. Oui, en fait, quand elle a su, enfin quand il a fallu l'amener aux urgences, j'étais pas spécialement stressé parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle s'inquiète vite pour. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que c'est qu'une idée, on va aller vérifier, on verra comment ça va se passer. Et voilà, le fait qu'ils aient dit que les bébés étaient. Enfin, elle est très bien tous les deux, c'est juste que voilà, il y en avait un qui était plus actif que l'autre. Donc voilà, ce côté-là était rassurant. Et voilà, c'est le fait que la sage-femme ait dit que son col était ouvert et puis qu'elle rentrerait pas à la maison. Et en fait, c'est là que l'hospitalisation a commencé. Voilà, c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai commencé vraiment à avoir peur. Quand on a dit vous rentrerez pas chez vous. À écouter le discours aussi des médecins, vu la taille du col à ce moment-là, c'était vous allez accoucher d'ici la fin de la semaine. Donc après, forcément dans sa tête, on fait nos calculs, ça va très vite. Et puis à ce moment-là, enfin si les bébés arrivaient, c'était clairement beaucoup trop tôt pour qu'on puisse faire quelque chose pour les garder, etc. Donc forcément oui là on va dire j'ai commencé à avoir vraiment peur peur de perdre nos enfants de pas pouvoir les rencontrer peur de tout ça donc après elle forcément elle a continué elle est restée alitée donc après on compte les jours, on se dit là il y a telle étape, il lui reste encore 10 jours à tenir, enfin, pour qu'il puisse y avoir une réanimation si les enfants arrivaient. Oui après en fait c'est ça, c'est on compte les jours, forcément on a peur, on se dit que c'est encore trop tôt, même si elle a passé certaines étapes importantes, on se dit que dans tous les cas, oui, ce sera beaucoup trop tôt s'ils arrivent. En fait, la journée, forcément, j'étais au travail. Je quittais du boulot. Fallait rentrer à la maison pour sortir le chien, parce qu'on avait encore notre chien à ce moment-là. Donc fallait aussi s'occuper du chien donc à la maison. Et après le boulot, après avoir sorti le chien, c'était direction l'hôpital où je pouvais rester que jusque 20h, il me semble, le soir. Elle est tombée aussi sur une superbe équipe où en fait les sages-femmes attendaient aussi que je vienne pour écouter les cœurs des enfants, etc. Donc l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai quand même pu écouter leurs cœurs. Puis bon voilà c'est ça reste quand même assez stressant même si j'étais content de l'avoir. De se dire que voilà elle ne peut pas bouger si même si elle est entourée par les médecins etc de se dire que voilà il y a toujours un risque qu'elle descende en urgence parce que les bébés arrivent etc donc même en étant sur place en voyant tout ça ça reste quand même assez stressant aussi toujours la peur d'avoir un SMS un appel pour me dire je suis descendu ça va pas ils sont là ou voilà, c'est en fait dès que le téléphone vibrait, oui, il y avait cette peur et cette appréhension de lire tel ou tel message ou d'avoir un appel et de dire ils arrivent, je suis pas là, je suis pas là et pour elle et pour eux. À partir du moment où elle a mis les pieds à l'hôpital, c'est un peu comme si le monde il s'était arrêté autour de moi. On va dire tout ce qui se passait autour, pour moi ça n'avait plus aucune importance. Il y avait plein de choses dont j'avais plus du tout envie après on pense qu'à ça pour en espérant que la finalité soit bonne la prématurité pour moi c'était quelque chose de complètement nouveau et inconnu en fait plus jeune quand j'entendais des personnes dire les enfants sont passés par du coup par l'URIP, ils se sont battus pendant plusieurs mois, etc. C'est débattant, etc. C'est vrai que moi je comprenais pas en fait ce discours. Je me disais que bah oui, les enfants sont arrivés plus tôt, ils sont dans une couveuse, ils sont branchés, enfin ça se passe comme ça et y a juste à attendre quelques semaines, quelques mois et puis ils ressortent et tout va bien. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu ce moment-là, tant qu'on n'est pas passé par là, c'est compliqué en fait d'imaginer tout ce que, enfin par quoi en fait les parents et les enfants sont passés. Quoi. Les enfants sont nés donc le 11 avril. C'était un dimanche, dimanche soir. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs jours où elle descendait en salle d'accouchement parce qu'il y avait des contractions, etc. Et donc elle remontait à chaque fois. Et en fait, oui, ce jour-là, elle est descendue. Il y a une sage-femme qui a contrôlé son col. Et qui a dit elle sentait plus le col, donc elle a dit bah, c'est une césarienne d'urgence. Et là c'est quand on était en bas en salle, la salle à côté de la salle d'accouchement. Et donc là en fait c'est pareil, j'ai l'impression que le monde s'est arrêté encore une nouvelle fois. Et en fait on était tous les deux dans une salle avec la sage-femme, et il me semble qu'il y avait une autre personne dans la pièce à ce moment-là. Il me semble qu'on était quatre dans la pièce. Et en fait, quand elle dit ça, en fait, c'est devenu une fourmilière. D'un coup, il s'est mis à y avoir beaucoup de mouvements autour de nous. Moi qui reste debout, à côté de Morgane, en train de lui tenir la main, et enfin, voilà, de pas savoir quoi faire. Et puis là en fait ils me disent clairement que je pouvais pas y assister parce que voilà c'était en urgence etc. Et en fait je reste debout dans cette pièce et là ils prennent son lit, l'amènent dans la salle qui était juste à côté. Et en fait moi je vois juste le monde qui était en train de s'agiter dans la pièce en face. Et puis là la porte qui se ferme devant moi et puis je me retrouve tout seul en fait. Ça j'avoue que je l'ai assez mal vécu. De me dire je peux pas assister à la naissance de mes enfants, je peux pas être aux côtés de Morgane à ce moment-là, je peux pas lui tenir la main, je peux pas la rassurer parce que elle était déjà stressée avec tout ce qui se passait. Ça faisait un mois et demi qu'elle était hospitalisée. Ils me disent d'aller patienter dans la salle d'attente, mais oui non, je suis resté assez longtemps tout seul, donc sans nouvelles, ce qui est alors je sais plus, il m'avait dit que sous une petite heure je pourrais voir entre guillemets les enfants une fois qu'ils seraient nés. Et je suis resté assez longtemps sans information en fait, savoir si tout se passait bien, si les enfants, les deux enfants étaient vivants, j'avais vraiment aucune information de ce côté-là. Tu fais les 100 pas, tu te poses énormément de questions, t'as l'impression que les minutes elles durent des heures. Enfin, j'aurais apprécié qu'il y ait une infirmière qui vienne me dire vos enfants sont nés, ils vont très bien, vous allez pouvoir aller les voir dans 10 minutes, etc. Ça n'a pas été le cas. Donc forcément derrière on se pose beaucoup de questions, on se dit est-ce qu'il y a un problème avec un des bébés, est-ce qu'il y a un problème avec les deux bébés, est-ce qu'il y a un problème avec Morgane, enfin voilà, on imagine tout de suite le pire. Donc après, dès qu'il y a une infirmière qui est venue me voir, j'appréhendais quand même ce qu'elle allait me dire. Le fait que c'est été aussi long, j'avais peur qu'elle me dise il y a un problème. J'avais peur de ça. Donc ils sont venus m'annoncer la naissance des enfants. Elle m'a dit qu'ils avaient, je sais plus par contre si c'était un des deux ou si c'était les deux, mais qu'en tout cas il y en avait un qui avait pleuré. Ils m'ont dit que le temps qu'ils finissent de préparer les enfants, que moi je pourrais aller les voir à l'URIP juste à côté. Donc là, elle repart, je reste encore un certain temps, moi j'ai trouvé le temps énormément long, tout seul. J'ai juste vu Morgane passer devant moi dans son lit. Je pensais que voilà que elle les avait vus, mais elle avait pas pu les voir non plus, il me semble. Du coup, je suis parti la voir juste 30 secondes en fait, le temps que qu'il puisse la remonter. Et donc elle m'avait posé la question si j'avais vu les enfants, et donc là j'ai dit que non, pas encore, mais qu'ils étaient venus me dire que tout allait bien et que je pourrais aller les voir juste après. Donc là après c'est pareil, les premiers pas à l'URIP étaient assez compliqués. En fait l'infirmière me parlait et c'était comme si en fait il y avait aucun son qui arrivait jusque dans mon cerveau quoi. C'était je pensais qu'à mes enfants et en fait tout ce qu'elle pouvait me dire pour moi ça rentrait d'un côté, ça ressortait tout aussitôt de l'autre. J'ai retenu absolument rien de tout ce qu'elle a pu me dire. Moi voilà, j'avais qu'une envie, c'était d'aller voir mes enfants, de les rencontrer. Et voilà, en fait tout ce qui se passait autour pour moi c'était que un gros nuage. Voilà, quand je suis rentré dans la première chambre, on va dire voilà toutes les machines etc. J'ai pas vraiment prêté attention. Je voulais voir, je voulais absolument les voir. Et en fait j'étais entre guillemets agréablement surpris parce que c'est vrai que enfin là en tant que papa, en tant qu'homme, je pense. On se fait souvent des idées, on voit souvent des bébés d'autres personnes. On va dire un bébé quand ça vient de sortir, c'est pas ce qu'on trouve le plus beau. en fait, ça j'appréhendais cette chose-là, de me dire mais voilà mes enfants sont moches. Et en fait ouais non, j'étais vraiment agréablement surpris de voir qu'ils avaient des vraies têtes de bébés. Je les ai vraiment trouvés beaux. Ils étaient pas joufflus, ils étaient pas boursouflés, ils avaient pas de marque ou quoi que ce soit. C'était vraiment, ils avaient vraiment des têtes et des corps de bébé, mais en miniature, quoi. Ils tenaient dans ma main. Mais ils avaient vraiment une belle forme, hein, des beaux visages, etc. Donc, c'est ce qui m'a vraiment le plus surpris. Et en fait, ils paraissent tellement fragiles parce qu'ils sont ils sont tout petits quoi, ça ils tenaient les deux tenaient dans ma main quoi. Donc c'est assez impressionnant quand même à voir pour une première rencontre. Donc après j'ai pu rencontrer donc nos deux garçons, et c'est après on va dire que voilà là où on commence à faire attention à l'environnement, à ce qu'il y a autour. Et voilà, de se rendre compte qu'ils sont dans une pièce où il fait assez chaud, ils sont enfermés dans l'incubateur, donc il y avait aussi énormément d'humidité dedans. Alors ça c'était pour leur peau, du fait qu'ils venaient de naître, etc. On les voyait aussi mais avec beaucoup de buée, donc il y avait un chiffon qui était à l'intérieur des incubateurs pour pouvoir essuyer la vitre pour qu'on puisse mieux les voir dedans. Bon après ça redevenait très vite humide, donc après c'est pareil, je voulais pas laisser la porte trop ouverte pour pouvoir les toucher, etc. De peur que ça puisse jouer sur les conditions pour qu'ils puissent grandir. Ça par contre je m'en souviens, c'est qu'ils m'ont dit qu'il fallait bien se nettoyer les mains, etc. avant de pouvoir rentrer, essayer de les toucher, etc. Donc ça forcément on a peur de tout. À ce moment-là, moi le Covid, c'était loin d'être une de mes priorités. Je m'en fichais entre guillemets. Mais là par contre pour eux, je me désinfectais les mains toutes les 30 secondes. Dès que je touchais quelque chose, si j'avais mis ma main sur mon jean avant de l'y retoucher, je me redésinfectais les mains. On voulait pas qu'ils aient un problème une bactérie qui puisse les rendre malades ou quoi que ce soit, et qui puisse aggraver leur situation. c'était pas entre guillemets la bonne façon de voilà de les rencontrer. Forcément, il y avait ce côté où j'étais heureux d'être devenu papa, mais d'un autre côté, en fait, il y avait ce sentiment de dire oui, ils sont là, mais rien n'est gagné. Tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre, dans l'heure, dans les jours qui vont suivre. Donc oui, il y avait ce côté-là où j'étais content d'être papa, mais voilà, triste que ce soit arrivé aussitôt. Donc c'est pas quelque chose que j'ai pu annoncer tout de suite, on va dire à nos entourages, comme on aurait pu le faire en temps normal, s'ils étaient nés à terme. Enfin, c'est cette frustration en fait de dire oui, ils sont là, mais même si je suis heureux qu'ils soient là, je suis pas content. Enfin, je suis pas heureux qu'ils soient arrivés aussitôt. Parce que voilà, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Physiquement, il paraissait tellement fragile. On a l'impression de pas être à notre place en fait, de rien pouvoir faire pour eux en fait. C'est là, nous clairement, on n'avait aucun impact sur la suite. Là, c'était vraiment eux et les médecins. Et c'est vrai que là, ouais, on se sent vraiment impuissant pour le coup, parce que, enfin, même avec toute la meilleure volonté du monde, nous, on aimerait faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Si on aurait pu donner notre vie pour eux, on l'aurait fait, clairement, sans hésiter. Et là, en fait, de dire, bah, que, voilà, on est là à côté, on peut juste venir les voir, être présent, les toucher, leur parler, que eux sentent qu'on est là, mais voilà, de pas pouvoir agir réellement dessus, c'est assez frustrant. Ouais. Oui, on est papa, mais on peut pas faire ce qu'on veut entre guillemets. C'est si on avait envie de les prendre, on peut pas. On pouvait pas passer des heures à les regarder dormir dans un lit entre guillemets normal. Autant j'étais petit neveu, j'ai jamais osé changer une couche de mes petits neveux. En fait, j'avais même changé aucune couche de toute ma vie, je crois. Et là, en fait, ils nous ont proposé, parce que c'est pareil, on savait pas ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on pouvait faire, etc. Et j'étais tellement focus en fait sur eux que c'est vrai que j'osais même pas forcément poser la question. Et puis un jour ils nous ont proposé savoir si on voulait faire les soins, les changer, enfin changer les couches, les nettoyer, etc. Et là en fait j'ai pas du tout hésité. Pour moi c'était une évidence en fait. C'est mes enfants, je suis leur père, c'est mon rôle de père de m'occuper d'eux, même si je pouvais rien faire de plus, pour moi c'était important de faire ces choses-là, de pouvoir avoir quelque chose à partager ensemble, et le fait de pouvoir leur changer leur couche, les nettoyer, etc., prendre la température, mais mon rôle de père en fait a commencé à ce moment-là, quand j'ai pu commencer vraiment à faire tout ça. Notre quotidien, c'était ça, c'était d'aller voir nos enfants, de passer du temps avec eux, d'essayer de se partager entre les deux aussi, d'essayer de pas passer plus de temps avec un garçon plutôt qu'avec l'autre. On a toujours essayé d'être juste par rapport à ça, qu'on commence pas à faire de préférence ou autre, mais oui, non, j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu le temps vraiment de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre, comment ça va se passer, même si on le pensait, enfin même si moi je le pensais, et puis voilà, comme moi c'est pas non plus entre guillemets dans mes habitudes de lancer ce genre de sujet, c'est vrai que c'était pas j'ai pas eu l'impression qu'on en ait parlé. Pour moi tout s'est fait machinalement, instinctivement, et voilà. Alors au début j'étais elle dormait encore à l'hôpital au début, donc même si s'ils étaient là, moi je rentrais quand même tous les soirs à la maison, donc après je revenais dès que j'étais levé, je revenais, je la récupérais dans la chambre quand, enfin si elle n'était pas déjà descendue sans moi, pour pouvoir aller voir nos enfants ensemble. Après, l'avantage entre guillemets qu'on a eu aussi, c'est que là-bas on pouvait les voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'était pas limité comme quand elle était dans la chambre avant que les enfants naissent, où j'étais limité à 2 heures par jour avec le Covid, etc. Là, si on avait envie d'aller voir nos enfants à 1h du matin, à 3h du matin, c'était possible. Donc, dès qu'on descendait, dès qu'on allait avec eux, on restait vraiment un maximum de temps. Des fois, on s'endormait même avec eux dans la même pièce. C'était une volonté de notre part à tous les deux après de passer un maximum de temps avec eux. Quand on arrive à l'URIP, tout le monde ne peut pas rentrer dans le service. Il y a une sonnette avec une porte vitrée juste devant. Donc on sonne, on précise qu'on est les parents de telle ou telle personne. Ils nous ouvrent, on va se changer, et là après on peut accéder au chambre. Ce jour-là, quand on a sonné, l'infirmière qui a décroché quand on a dit qu'on était les parents de Jay Zahir, nous a dit « je vous fais patienter ». On s'est dit c'est bizarre. Morgane, elle, forcément a tout de suite pensé au pire. Elle a dit il y a un problème avec mon fils. Et là l'infirmière, je pense qu'elle était. Je pense qu'elle devait pas savoir quoi dire ou quoi faire exactement. On sentait qu'elle était, dans sa façon de parler, qu'elle était gênée. On s'est dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, elle nous a dit, le médecin arrive. Forcément, on s'est dit, si le médecin arrive, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Ça sent pas bon du tout. Il est venu et nous a expliqué. Elle nous a expliqué tout ça, et puis c'est la descente aux enfers. On va perdre nos enfants. On va perdre un de nos enfants, un de nos garçons. C'est le monde qui s'écroule. Déjà avant ça, on avait l'impression d'être dans une bulle. Là, on a l'impression que cette bulle, en fait, elle commence à se rétrécir. On veut pas y croire. On se dit que, en fait, moi j'ai du mal. Là, par contre, j'ai du mal avec ça, c'est que je me dis toujours qu'il y a une erreur. Même si c'est leur métier, je voulais pas y croire. J'ai jamais voulu y croire. On comprend que ça va pas. Avec tout ce qu'il nous dit. On comprend que ça va pas, et la question qu'on pose c'est est-ce que notre garçon va vivre, qu'il y a quelque chose qui est possible de faire, est-ce que c'est aussi grave que ça, est-ce qu'il peut s'en sortir, est-ce qu'il y a une solution. Et en gros, quand il nous fait comprendre que non, là pour le coup on nous retire un bout, quoi. On se dit que c'est pas possible. Il peut pas partir. Il vient d'arriver. Il peut pas partir aussi vite. Pour le coup, on veut passer un maximum de temps avec lui, sans pour autant délaisser Zahir non plus. Donc on leur parlait quand même à tous les deux, on leur parlait beaucoup, on expliquait à Zahir la situation que son frère, l'état de son frère s'était dégradé, qu'on devait passer un petit peu plus de temps avec son frère parce qu'il allait partir, que c'est pas parce qu'on passait plus de temps avec son frère que ça voulait dire qu'on l'aimait pas, qu'on le délaissait ou quoi que ce soit, mais qu'il fallait qu'on soit auprès de son frère. Oui, je voulais que nos enfants soient baptisés. Donc on a demandé voilà si c'était possible. Donc on a pu le faire à l'URIP. Ils nous ont demandé aussi si on voulait que des personnes viennent les voir, viennent le voir pour lui dire au revoir. On a posé la question aux grands-parents, à certains de nos amis très très proches. Si vous voulez venir les rencontrer, donc les parrains, parrains, marraines. Pour nous, c'était aussi important qu'ils puissent les rencontrer. Peut-être pour d'autres personnes, c'est peut-être pas évident de ressentir, entre guillemets, ce qu'on va ressentir en se disant, oui, ils sont là, ils étaient là, il est parti, mais je l'ai pas rencontré. Ça reste peut-être abstrait si ces personnes-là ne les ont pas rencontrées. Et on voulait que nos enfants rencontrent leurs grands-parents, qui rencontrent leurs parrains, leurs marraines, etc. Après, d'un autre côté, je me suis dit, je me suis posé la question 30 secondes et puis après je me suis au final je m'en fiche de dire est-ce qu'on va pas leur rajouter entre guillemets une douleur à eux qui aurait entre guillemets peut-être pu être évitée. Puis après on pense à nous, on pense à nos enfants et on se dit que dans tous les cas ce que eux vont vivre ça ce sera jamais aussi fort que ce que nous on est en train de vivre. En fait ce qu'on n'a pas pu voir, on va dire quelque chose qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer en fait. Et je me dis que si les personnes ne les ont pas rencontrées, forcément derrière ils les oublieront peut-être plus facilement. Et en fait ça c'est pour nous c'est hors de question qu'on oublie nos enfants. C'est une hantise de notre côté qu'un jour en parlant de nos enfants de Jay et Zahir que je sais pas qu'on parle d'eux et qu'une de ces personnes-là qui connaît notre histoire nous demande qui c'est. Et ça pour nous c'est juste inconcevable quoi. C'est hors de question qu'on oublie nos enfants et on a vraiment peur de tout ça. C'est aussi pour ça que ça nous tient à cœur quand même de pas taire leur histoire.
Quand on a parlé du baptême avec Morgane, elle m'a dit que tu t'en souviendrais sans doute mieux qu'elle. De ce baptême, celui de Jay, et de cette rencontre avec les proches. Qu'est-ce que le prêtre a fait ou a dit dans cette chambre de réanimation pour baptiser Jay?
Je t'avoue que c'était encore, ça reste un moment flou. En fait, tout ce qu'il a pu dire, là, je suis incapable de savoir quelle phrase il a dit. Je saurais même pas le reconnaître demain si je le croise dans la rue. J'avais tellement en tête en fait de mon fils. J'ai pas arrêté de regarder mon fils parce que je savais que si on était là, si on faisait ça à ce moment-là, nos amis étaient là. C'est que notre enfant allait partir dans les prochains jours et en fait j'osais pas te quitter des yeux en fait, même si on sait que c'est des choses qu'on n'oubliera pas, on a toujours peur d'oublier de louper certaines choses et donc voilà c'est pour moi là ce qui était important c'était de voir mon enfant et d'emmagasiner en fait un maximum d'images et de garder en fait de pouvoir garder ces souvenirs. Ça faisait 7 jours qu'il était là. En 7 jours, il a pris une place énorme dans mon cœur. Et forcément, j'ai besoin de tout ça, en fait, de pouvoir le toucher, de pouvoir le sentir, le caresser, etc. Et là, de se dire que c'est la dernière fois que je le fais, de plus pouvoir partager ça après, c'est très dur. En fait, c'est dur de se dire qu'on partage un câlin ensemble et que bah, ça va être notre dernier câlin en fait. De se dire que voilà, d'un autre côté, on était entre guillemets bien de voilà, de le sentir, enfin j'étais bien moi de le sentir contre moi, de voilà, sans artifice autour en fait, sans avoir de comment dire, de bah, de tissu d'un t-shirt qui va nous séparer. Là pour le coup on faisait vraiment, enfin je faisais vraiment qu'un avec lui. Aucun parent devrait avoir à enterrer ses enfants, à préparer les obsèques de ses enfants. J'ai jamais eu à préparer d'obsèques de ma vie. Mes parents sont encore là. Les autres personnes que j'ai pu perdre dans mon entourage, même de la famille, on va dire, bah après c'est voilà des oncles, des tantes, etc. C'est pas des personnes aussi proches où j'ai eu besoin en fait de préparer tout ça. Et là de se dire bah que les premiers obsèques que je dois organiser, que je dois gérer, bah c'est ceux de mon fils. C'est pas humain en fait. C'est ouais, non, aucun parent ne devrait avoir à vivre ça. C'est nous qui devons enterrer nos parents, c'est pas l'inverse. Ouais. Une fois que bah, que Jay est parti, on se dit bon, il est parti, on est les parents les plus malheureux du monde, mais faut qu'on reste fort. Il en reste encore un. Faut qu'on vive pour lui, faut que lui vive pour son frère. Donc là, forcément, on mise tout entre guillemets sur lui. On espère que voilà, que tout va bien se passer, qu'il va prendre du poids, qu'il va grandir, etc. Et l'objectif, c'était que lui puisse rentrer à la maison avec nous. Donc oui, après, on veut passer un maximum de temps avec lui, d'essayer de voir toutes les progressions qu'il peut y avoir, parce que bah forcément il est pesé très régulièrement, donc le moindre petit gramme de prix pour nous c'était déjà une victoire. De voir que même en si peu de temps son visage, son corps avait déjà changé. On se dit bah qu'il est entre guillemets sur la bonne voie et que plus rien d'autre peut arriver. Après avec le temps, donc il y a eu d'autres complications pour lui. Je me souviens des mots de Morgan qui était fort. C'est qu'en fait elle disait au médecin, on peut pas perdre Zahir aussi. Faut pas qu'il parte. Si lui part, on peut pas vivre ça une deuxième fois en fait. Déjà perdre un enfant, c'est horrible. Devoir perdre nos deux enfants, nos jumeaux, pour nous c'était même impensable quoi. Moi je me suis clairement voilé la face. Quand ils nous ont annoncé que Zahir devait partirait aussi à son tour, je me suis dit que là pour le coup non, il se trompait en fait. J'ai pas dormi de la nuit, toute la nuit je cherchais des informations, je cherchais sur internet tout et n'importe quoi, des gens qui auraient pu vivre la même chose, qui auraient vu des enfants qui auraient eu des saignements aussi au cerveau sur le même stade, etc. Savoir si eux s'en étaient sortis, etc. Donc je suis tombé sur un forum, alors je ne sais plus il y avait combien de pages il y avait. Du coup, je recherchais d'autres infos ailleurs, en espérant tomber sur une histoire d'un enfant qui a eu la même chose et qui, lui, s'en est sorti. Parce que c'est vrai qu'il parlait beaucoup que ces saignements au cerveau pourraient provoquer des retards. Moi, je me suis dit, mais si c'est juste un retard, c'est pas grave, en fait. Un retard, je m'en fous, c'est pas grave. À partir d'un moment où notre enfant est là à nos côtés, qu'on peut le voir grandir, vivre, partager beaucoup plus de choses avec lui. Pour moi, je me suis dit, si c'est juste un retard de, s'il commence à marcher qu'à 5 ans, s'il commence à parler qu'à 8 ans, enfin, je sais pas, mais pour nous, c'était pas grave, en fait. Je me suis dit, même si mon enfant il parle pas, même si mon enfant ne marche pas, c'est pas grave, en fait. Je peux pas me permettre que mon deuxième fils parte. J'avais besoin de lui, en fait, à nos côtés. Puis bon, après, forcément, la raison doit quand même revenir et de se dire, c'est pas une vie, c'est pas une vie pour un enfant justement de pas avoir de vie d'enfant. Même en fait avec le recul, de se dire que nos enfants soient passés par l'URIP, de se dire qu'ils ont en fait depuis leur naissance ils ont été intubés, ils ont eu des masques, ils étaient enfermés dans un incubateur donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être dans une pièce où en fait ça bipait toute la journée, quoi. C'est dès qu'il y avait une seringue qui était vide, donc il y a une alarme qui se met en route pour prévenir les infirmières, pour changer les seringues, etc. Donc en fait, de se dire qu'on a fait endurer, qu'on a fait endurer ça à nos enfants aussi, en fait, en tant que père, ça fait mal aussi, tu vois. De se dire j'ai pas réussi à les protéger de tout ça. Et après là, le fait, une fois qu'en fait leur cœur s'est éteint, la seule chose qui a pu entre guillemets apaiser tout ça, c'est que je me suis dit maintenant ils vont être au calme. Il y aura plus personne qui va les embêter pour venir faire les soins, pour prendre leur température, pour les prises de sang, il y aura plus les bips toute la journée. Ils vont pouvoir dormir et vraiment être au calme, tous les deux, quoi. Être au calme et être ensemble. J'ai dû reprendre le travail trois ou quatre jours après avoir enterré Zahir. Voilà, ça faisait un mois que j'étais dans cette entreprise-là. Je perds mes enfants, donc je m'absente déjà pendant un mois. J'avais aussi besoin, en fait, de m'occuper l'esprit. Parce que je me suis dit, le problème, c'est que si je reste à la maison, je vais ruminer, pas que je veuille pas y penser, mais je vais ça va cogiter dans ma tête toute la journée. Je vais pas dormir. Faut que j'ai quelque chose qui m'occupe pour tenir, entre guillemets. Moi, il fallait que je m'occupe. Après, je fais du sport depuis l'âge de 3 ans. Je fais du karaté depuis l'âge de 3 ans. Donc en fait, derrière, moi, j'avais besoin aussi de reprendre une activité sportive. En fait, c'est mon défouloir. Quand je suis au sport, je pense plus à rien. Si je vais y penser, c'est d'un autre côté, ça va être ma force, en fait. En fait, mes enfants, c'est à la fois mon point faible, mais c'est aussi derrière ce qui va faire ma force. C'est que derrière il y a des moments où on va baisser les bras, de dire là c'est difficile, etc. Mais en fait je repense à mes enfants et je me suis dit eux se sont battus jusqu'au bout. Ils ont entre guillemets rien lâché, et si eux l'ont fait, pourquoi moi j'abandonnerai, en fait. Du coup, ma première compétition, en fait, de karaté après que mes enfants soient partis, En fait, je me suis écroulé à la fin de mon combat. Parce que je me suis dit que voilà, ils auraient dû être là tous les trois. Nos deux enfants et ma femme. Le premier combat qu'ils ont eu, bah, ils l'ont vu de là-haut. C'était assez compliqué. Mais voilà, après, je me sers de tout ça pour en faire ma force et pas abandonner. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'occuper l'esprit, que ce soit, voilà, soit derrière par le boulot, soit par le sport. En fait, de voir du monde, de voir des gens, de pas rester tout seul. Contrairement à Morgane, qui elle est plus à se renfermer et justement à ne pas vouloir du tout sortir, à voir aucune personne, et en fait, ça, oui, on vit complètement différemment. Notre façon, en fait, de vivre le deuil ou d'essayer de remonter la pente est complètement différente pour tous les deux. Après, effectivement, je suis conscient qu'on n'a pas du tout la même façon de vivre la chose. Je peux pas lui reprocher, parce que je sais que qu'elle est comme ça, c'est sa façon d'être et c'est sa façon de faire aussi. Même si, voilà, si là le sujet est quand même revenu sur la table, même récemment, même si on vit pas la chose de la même façon, j'estime que, comment dire, que, enfin, voilà, l'autre, c'est l'autre personne qui est là, a besoin de ça, et enfin, on peut pas se reprocher mutuellement que l'autre personne ne le vive pas de la même façon. Après, voilà, pour moi, ce qui reste le plus important, c'est qu'on arrive à trouver chacun de notre échappatoire, notre façon de faire, de vivre la chose, tant que ça n'a pas d'incidence, en fait, sur nous, en fait, sur notre couple, et sur notre relation. On n'a plus nos enfants. C'est dur moralement de dire que, en fait, nous, notre vie, elle s'est arrêtée dès qu'on a perdu nos enfants, et de se dire que derrière, bah, on doit reprendre notre vie d'avant, entre guillemets, comme si de rien n'était, mais avec ce poids en plus, avec cette douleur en plus, et en fait, après, à la fin, on arrive à en jalouser certaines personnes. Je suis pas du tout quelqu'un de jaloux, ou qui souhaite du mal aux gens, ou du coup, dès que je vois des parents avec leurs enfants, oui, là, j'ai un côté jaloux. Où je me dis, en fait, là, ça, c'est ce qu'on aurait dû vivre, c'est ce qu'on n'a pas vécu, et ouais, ça fait mal. Et alors, je sais pas si c'est si parce que avant on faisait pas attention, mais en fait, on a l'impression que depuis que nos enfants sont partis, on voit encore plus d'enfants, on voit encore plus de bébés quand on est dans la rue, on voit encore plus de femmes enceintes que ce qu'on pouvait voir avant. Des jumeaux, on en voyait quelques-uns, mais pas plus que ça. Et là, en fait, ça parle beaucoup de jumeaux, que ce soit... on voit beaucoup de jumeaux dans la rue, même dans le quartier. Il y a encore quelques semaines, j'ai vu une femme avec son mari, donc une poussette double, la même que la nôtre, donc avec deux enfants dedans. Je me dis, oui, ça aurait dû être nous. C'est nous qui aurions dû nous promener tous les quatre avec notre chien le long du canal pour se promener, et tout ça, on va jamais le vivre. C'est dur. Après, même à la télé, des émissions, des séries, etc. Il y a des enfants, bah les enfants, c'est quoi? Ça va être des jumeaux. Donc après derrière, il y a toujours aussi ce petit truc qui nous fait penser à nos enfants, qui nous repique encore une fois de plus pour te rappeler que toi t'as perdu tes enfants, t'es devenu un père, ta femme est devenue une mère, mais par contre tu rentres, t'as aucun enfant à t'occuper. T'avais préparé tout, la chambre, le lit, les lits des enfants, mais en fait tout était prêt, tout était acheté en double pour eux, etc. Et se dire que tout ça servira peut-être jamais, que voilà, on a préparé leur chambre, enfin il y a aucun enfant qui a dormi dedans. Là aujourd'hui, on a toujours pas démonté les lits des enfants. Dès qu'on pense à la perte d'un enfant, on va penser à la maman, on va pas penser au papa, parce que forcément c'est elle qui les a portés, c'est elle qui a tout ressenti, de l'intérieur, etc. Donc forcément oui, on va plus s'orienter vers elle. C'est vrai que dans notre entourage, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, savoir comment moi j'allais. C'est vrai que c'était tout de suite, forcément la maman. Après, je leur en veux pas par rapport à ça, parce que moi aussi le premier, c'est elle s'inquiétait pour moi, mais moi je disais moi on s'en fiche. Le principal là, c'est toi. Moi je voulais faire en sorte que elle aille mieux, et on va dire moi c'était vraiment du secondaire, c'était si ça va pas, c'est on s'en fout, je veux que toi t'ailles mieux. Donc au final oui, non, même je suis pas du tout rancunier, je leur en veux pas. Après forcément oui, au bout d'un moment ça est peu entre guillemets énervé de se dire que oui, on pense que à la maman et pas du tout au papa, mais voilà. Après je fais abstraction de tout ça, et voilà, moi le principal c'est Morgane en fait.
Alors vous êtes marié il y a 2 mois environ. Elle t'a demandé en mariage. Et voilà, je lui ai posé la même question que celle que je vais te poser là maintenant. Si tu devais lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais lui dire là à Morgane tout de suite dans cet épisode?
Elle est dans la pièce d'à côté, là. Elle vient de rentrer, alors elle va peut-être entendre. Mais sinon oui, de lui dire que c'est merveilleuse, que je pense que ses enfants peuvent être fiers d'avoir une mère comme elle. Je suis pas sûr que certaines mères fassent autant pour leurs enfants que elle, ce qu'elle a pu faire pour nos enfants, et je suis certain qu'elle aurait fait encore plus par la suite. Je vois déjà comment elle se comporte avec ses petits-neveux. Pour moi, oui, c'est la meilleure mère qu'un enfant puisse avoir. Elle a ses exigences. Elle est droite, mais elle est carrée, mais elle est juste. Et voilà, tout ce qu'elle va faire, elle va le faire avec le cœur. Quand elle aime, elle compte pas, elle donne tout pour les personnes qu'elle aime, et je suis sûr que c'est la meilleure mère que nos enfants puissent avoir. Le fait que nos enfants soient plus là, là il me reste plus que elle, c'est, on va dire, c'est la, 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 la personne, la seule personne qui peut vraiment comprendre ce que je vis, puisque tout ça on l'a partagé à deux, c'est la personne qui, la deuxième personne au monde qui va le plus pouvoir faire vivre nos enfants, en fait.
Cet épisode touche à sa fin et je remercie infiniment Morgane et Cédric de m'avoir fait ce cadeau, celui de témoigner et de raconter l'histoire de leurs deux fils, Jay et Zahir. Le mois de novembre, marqué par la journée mondiale de la prématurité, touche à sa fin, alors toutes mes pensées s'envolent vers eux. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour m'aider à financer ce projet et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/au-revoir-podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.